votre Bible dans Hébreux 3. Le Seigneur m'a demandé de continuer dans Hébreux parce que je n'avais pas fini. J'aurais bien voulu passer à autre chose, mais c'est important ce que je dois vous apporter ce matin. Donc on va lire dans Hébreux 2 ou Hébreux 3. J'ai plusieurs... Bon, on va lire dans Hébreux 2. Hébreux 2, 6 à 10. Mais bon, il faudrait lire tout Hébreux. Hébreux 2, 6 à 10. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et en lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été fait pour un peu du temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Seigneur, bénis ce temps où ta parole doit nous interpeller et nous aider à nous fortifier dans la foi. Nous te prions ce matin afin que tu souffles ton esprit sur chacun de nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez ce passage qui est tiré de l'Ancien Testament, psaume 8, verset 5, nous parle de Jésus qui s'est fait homme, inférieur aux anges, dans le sens où voilà, il a pris un corps humain, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu pour partager notre condition humaine, partager la violence des humains, partager la haine, partager voilà, tout ce que nous connaissons. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Et quand nous venons à lui, il comprend notre situation. Nous n'avons pas besoin de Marie, nous avons besoin voilà, une femme, parce que Jésus nous comprend. Voyez. Nous nous attachons à lui parce que c'est lui qui est Dieu, qui s'est fait homme. Et là, il est dit que c'est par la souffrance qu'il a appris l'obéissance. Voyez-vous. Donc nous aussi, ne nous plaignons pas, si nous souffrons, nous avons le droit de nous plaindre, mais ressaisissons-nous, parce que c'est souvent par la souffrance que nous apprenons à obéir. Et donc il l'a fait de peu inférieur aux anges, pour qu'il partage notre condition, pour qu'il prenne le péché sur nous, et par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Alors là, c'est un paradoxe. Il a goûté la grâce par la mort. Comme quoi la mort peut avoir une vertu. C'est ainsi que on voit qu'il y a des paradoxes dans la Bible. La mort qui amène la vie, la souffrance qui amène l'obéissance, vous voyez, tout ça c'est des paradoxes, c'est des choses contraires et qui sont vraies toutes les deux en même temps. L'Épître aux Hébreux, je le rappelle très rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas entendu les derniers messages. Je pense que ce message-là, il sera sur Internet, c'est bon, voilà, parce qu'il y avait un niveau qui n'était pas bon. Donc celui-là, vous l'aurez. Donc cet Épître des Hébreux, dont on ne sait pas qui l'a écrit, on l'attribue à Paul, mais on ne sait pas. Alors que tous les autres savent, parce que tous les autres, souvent, ils disent moi Pierre, moi Paul, voilà, ils s'introduisent. Voilà. Là, elle n'est pas introduite. C'est une épître universelle, générale, qui s'adresse à tout le monde, voyez, mais on ne sait pas qui l'a écrite, peu importe. Elle est la parole de Dieu. Cette épître est une épître céleste. Elle parle du ciel. Voyez. Il y a des épîtres qui parlent de la terre, par exemple Philémon. L'épître au Philémon, toute petite là, elle parle de quoi l'épître au Philémon? La Bible apporte des choses concrètes. Là, elle parle du ciel, voilà. L'épître au Philémon parle de quoi? Pardon? J'entends pas. Oui, tout à fait. Elle parle de l'esclavage, c'est-à-dire de la relation, c'est intéressant ça, la relation entre un maître et un esclave. Et cette épître ne demande pas à l'esclave de se révolter. Oui, on pourrait dire, bah oui, c'est révoltant un esclave. Bon. Non, il demande simplement au maître de prendre soin de son esclave et à l'esclave de renouer, de réconcilier avec son maître. Et c'est étonnant. Donc chaque épître a un thème particulier. Donc là, c'est très concret, l'épître au Philémon. Et là, c'est une épître céleste. Comme les Éphésiens, d'ailleurs. L'épître aux Éphésiens, je sais que quand Jack et Ford, on était deux fois au bénéfice de l'enseignement de Jack et Ford, toute une semaine, il a parlé de l'épître à l'Éphésien, qui est le modèle de l'Église. Hein. En ce moment, la formation, je vous explique un modèle, mais si vous prenez le modèle d'Éphésiens sur le modèle que je fais, je devrais avoir plus de modules pour vous parler de ça, vous avez exactement le module aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens qui explique parfaitement comment doit fonctionner une église. Là, donc, c'est aussi et comment fonctionne l'union de l'église avec Dieu, l'épître aux Éphésiens. Là, c'est une autre épître céleste qui a pour objectif de montrer comment l'ancien régime de la loi, l'ancien régime de l'Ancien Testament, ou de l'Ancienne Alliance, je préfère parler d'alliance que de testament, parce que c'est un peu mal connoté, l'Ancienne Alliance, comment c'était l'ombre de ce qui allait être la réalité en Christ. Donc l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance que nous célébrons avec la scène tous les dimanches, la Nouvelle Alliance, eh bien, comment l'Épître aux Hébreux explique la Nouvelle Alliance à partir de l'Ancienne, qui préfigurait, qui renvoyait vers une réalité qui est en Christ. Nous, nous vivons dans la réalité, et les Hébreux, les Juifs, vivaient dans l'ombre de ces réalités. C'est ça le but de l'Épître aux Hébreux, pour expliquer aux Juifs qui devenaient chrétiens qu'en fait, il ne fallait pas qu'ils mélangent, qui fasse ce qu'on appelle un syncrétisme, un mélange entre le judaïsme et le christianisme, ce qui est une tentation pour certains chrétiens aujourd'hui, hein, qui veulent revenir mélanger avec le judaïsme. Alors que l'Épître aux Hébreux montre justement qu'il faut abandonner l'ombre pour saisir la réalité. Est-ce que vous avez déjà essayé d'attraper votre ombre ? Hein, quand on est enfant, on joue un peu à ça. Quand on ne sait pas très bien ce que c'est. Et quand on est grand, on ne va pas chercher à rattraper l'ombre, hein, sauf si vous jouez. Mais dans la vie réelle, vous préférez la réalité, oui ou non? Eh bien, c'est l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, c'est de parler de la réalité, mais en partant de l'ombre. Comme Jésus a expliqué aux disciples d'Emmaüs, quand les disciples d'Emmaüs ont rencontré Jésus sur leur chemin, ils étaient tout tristes. De voir que leur histoire s'arrête. Qu'avec Jésus, c'était super. Pendant 3 ans, ils ont vécu des miracles, des machins, des choses extraordinaires, supernaturelles et tout, voilà. Et là, il est mort. Mais c'est quoi? Ils étaient tristes. Et Jésus est à côté d'eux, et il marche. Il marche avec eux. De Jérusalem à Jéricho, je ne sais pas combien de kilomètres. Ceux qui savent, je ne sais pas, mettons 10, je ne sais pas. Enfin, voilà, c'est pas 300 mètres, c'est quelques kilomètres. Donc, il a eu tout le temps. Et qu'est-ce qu'il disait, Jésus? De quoi entretenait Jésus, de quoi il les entretenait? Et de quoi, les Écritures? Il parlait de lui. Hein, c'est-à-dire qu'il leur expliquait que dans les Écritures, tout les passages, il n'a pas commencé par la Genèse et l'Apocalypse, hein, il a parlé des Écritures, de ce qui parlait de lui, de Jésus, comme quoi c'était écrit et que ce qui vient d'arriver, leur espérance doit être fondée sur les Écritures dans l'histoire. Il leur racontait l'histoire, non pas une histoire, non pas une idéologie, non pas une fantaisie, non pas, non, mais le prophétisme de l'histoire. Et nous devons être des chrétiens de la réalité de l'histoire. Sinon, nous sommes comme les philosophes grecs, sagesse, et nous faisons de la dialectique, nous faisons de la rhétorique, nous faisons des sophismes. Voilà. Tout ça, ce n'est que du vent qui n'amène à rien. C'est la réalité. La réalité de Jésus, la réalité de l'incarnation, la réalité de la résurrection qui peut changer quelque chose dans l'humanité. Donc cette épître est céleste parce qu'elle parle surtout de ce qui se passe au ciel. Alors là, je voudrais aussi dire un petit mot. Dans RNC, en ce moment, on fait beaucoup, met beaucoup l'accent sur l'engagement social. Et moi, je ne suis pas contre. Hein. Je suis très content que la Gerbe fasse cela, qu'on puisse être un petit peu, il puisse apporter une locomotive pour nous, parce que là, on n'est pas encore très bon là-dedans, sauf s'il y en a qui se lèvent, des entrepreneurs qui vont créer des entreprises. Moi, je souhaite ça pour les jeunes et tout ça. Mais comme on ne l'a pas pour l'instant, on utilise les chrétiens autour de nous qui nous tirent. Hein. Jean-Marc Sémoulin et d'autres, c'est vraiment des entrepreneurs extraordinaires qui sont des projecteurs dans voilà. Là, c'est regarder vers la terre. Mais il faut les deux. Il faut regarder au ciel et sur la terre. Mais il ne faut pas que l'un prenne le dessus sur l'autre. Voilà, c'est tout. Hein, parce qu'effectivement, il y a la tendance du dualisme, dire « Bon, maintenant, on fait le contraire de ce qu'ont fait nos pères parce qu'ils sont trop occupés du ciel, on va s'occuper de la terre. » Non, c'est les deux, en même temps, et dans un équilibre. Oui. Alors, bien sûr, au Moyen-Âge, on parlait que du ciel. On parlait que du ciel. Mais c'était un artifice de l'Église pour dire nous, on est voilà, les évêques et tout ça, on est plantureux dans. Voilà. Et vous, le peuple, eh bien, vous n'avez qu'à souffrir parce que vous allez jouir du ciel après. Donc on parlait beaucoup du ciel, hein, au Moyen-Âge. Comme ça, on était tranquille parce que le peuple, on le gardait loin de l'envie de goûter aussi des plaisirs de la vie, etc. Les évêques, en général, c'était des aînés. Alors, j'ai plus si c'est le premier qui était destiné chez les aristocrates à l'armée ou au clergé, je sais plus. Enfin, j'ai pas de mémoire. Le deuxième au clergé. Ah, merci, Jean Sommel. Deuxième au clergé et le premier. Attendez, va vous le dire parce que.
Le premier, techniquement, il récupérait l'affaire familiale, donc il touchait à l'armée et tout. Enfin, c'est lui qui avait l'armée et tout, quoi. Enfin, ça, c'est au Moyen Âge. Ouais. Le deuxième, souvent, il était destiné au, à Dieu, ouais, au clergé.
Vous voyez, donc c'était codifié et c'était clair. Mais il était destiné à Dieu, qu'il soit, on s'en fichait qu'il soit né de nouveau. C'est pas le problème. C'était une loi, voilà. Donc deuxième, le clergé. Voilà. Et il y a une famille, quand j'étais à Mulhouse, à Porte Ouverte de Strasbourg, une famille qui m'a dit ils ont dû prier pour la délivrance de leurs enfants, de leurs garçons, parce que, donc ça c'était il y a 50 ans, hein, parce que le curé venait, quand il y avait une naissance, il venait, et puis il mettait un vœu sur les enfants pour que le deuxième appartient et fasse et rentre dans les ordres, rentre dans pour être curé, etc. Vous voyez, donc il y avait une malédiction, enfin voilà, un contrôle en tout cas, un contrôle qui se transformait ensuite après. Et ils ont vraiment dû prier pour être libérés parce que c'était un petit peu la catastrophe. Hein. Et donc vous voyez, c'est encore des choses qui existaient au Moyen-Âge, mais qui se perdurent, qui ont perduré jusque dans les paroisses locales, quoi. Et ils ont dû vraiment lutter pour se dégager de ces, parce qu'ils mettaient la main sur le bébé et faisaient des choses, voilà, avec le rituel catholique, etc. Voilà. Ils ont dit que c'était vraiment terrible. Bien. J'en étais à cet épître qui parle du ciel, qui est important tout en étant aussi tourné vers les autres. Il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Vous voyez, les deux sont vrais. Un autre trait de cet épître, c'est le gouvernement de Dieu. Alors, gouvernement de Dieu, ça s'appelle en grec le basileia touteou, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, si vous voulez. Et là aussi, avec RNC, nous partageons cette théologie du royaume de Dieu. Mais vous voyez que le royaume de Dieu, aujourd'hui, il n'est pas pleinement accompli. Puisque il est dit que nous devons attendre le jour où tout serait sous les pieds de Jésus. Aujourd'hui, tout n'est pas sous les pieds de Jésus. Il y a encore de la rébellion, et Dieu met les ennemis sous les pieds de Jésus en attendant son retour, où effectivement le jugement se fait. C'est pour ça qu'on appelle le royaume du déjà, pas encore. Nous sommes dans le déjà pas encore du royaume, et malheureusement, il faut faire avec, hein, comme dit l'autre, en attendant que nous en entrions dans le millénium, qui est ce domaine, ce temps où l'ennemi sera sous clé, verrouillé, et il sera relâché juste à la fin. Alors, Dieu règne sur son trône. Il règne sur son trône, et c'est en grâce. Avec Moïse est venue la loi. Et avec Jésus est venue la grâce. Donc nous vivons sous la grâce. Ça ne veut pas dire que la loi n'est plus à mettre en œuvre. Sauf qu'elle se trouve ailleurs. La loi, au temps de Moïse, se trouvait sur des tablettes de pierre. Et aujourd'hui, elle se trouve sur des tablettes de chair. Tenez votre cœur, ça c'est votre tablette. La tablette de chair, c'est la tablette où Dieu inscrit sa parole dans vos cœurs. C'est pourquoi nous devons garder non pas la Bible sur nos cœurs, hein, ça, bon, c'est un geste, mais que nous devons connaître la parole de Dieu, la chérir, l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, notre âme. Voyez. C'est pourquoi ces 500 ans de la réforme, c'est important de rappeler que l'Écriture seule doit être dans nos cœurs. Et même si nous ne comprenons pas toute l'Écriture, qu'il y ait des endroits de mystère, eh bien Dieu va les révéler à ceux qu'il aime. Amen. Et petit à petit, nous pouvons comprendre mieux ce que le Seigneur veut nous enseigner. Dieu est sur son trône et il règne en grâce pendant cette période où nous sommes. Comme cette épître est remplie du trône, elle est remplie de la grâce. Vous êtes venus à la montagne de Sion. C'est là que Dieu, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents d'Hébreux, eh bien, établit la royauté de Jésus sur le trône de David. Le trône de David est un trône terrestre, mais en même temps, il renvoie au trône céleste de Christ qui règne à jamais sur le trône de David, en puissance et en grâce. Et il règne en grâce par la justice. Sans justice, il n'y a pas de grâce possible. Il faut que la justice soit au cœur aussi de notre compréhension de la parole de Dieu. Le verset 7 nous parle d'imiter nos aînés, d'imiter ceux qui nous ont précédés. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Là aussi, les 500 ans de la réforme nous permettent de nous rappeler nos conducteurs passés. Ils n'étaient pas parfaits. Quand on voit la vie de Luther, effectivement, on est étonné qu'il ait été antisémite, mais grave, hein, grave. Il aurait, comme au temps d'Hitler, mis sur bûcher à tel point. Hein. Voilà. Comment vous expliquez ça? Eh bien, c'est simplement parce qu'on est humain. Hein, et il ne faut jamais mettre un serviteur de Dieu sur un piédestal. Vous serez déçu. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Il n'y a que Jésus qui est sans péché. Il n'y a que Jésus qui n'est pas affecté par... Et au temps de Luther, Luther a fait deux grandes erreurs. Heureusement, il y en a une qui lui a échappé, parce que c'est l'Église catholique qui l'a fait. Mais il l'aurait fait aussi. Tout le monde en est convaincu. C'est-à-dire mettre Galilée sur le bûcher. Mettre Galilée sur le bûcher qui disait que la terre tourne autour du soleil, l'Église l'a mis sur le bûcher. Mais Luther l'aurait fait aussi, parce qu'à l'époque, ils pensaient la même chose. Et même peut-être plus encore les protestants que les catholiques. Donc vous voyez, il ne faut pas idéaliser les choses, il faut être concret. On vit dans une époque, aujourd'hui, effectivement, personne d'entre vous va dire que le soleil tourne autour de la terre. Sauf, il y a quelques mois, vous l'avez peut-être vu aussi, un imam, je ne sais plus lequel, a raconté ça à ses fidèles, je ne sais plus, en Égypte, que c'est une invention. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont cru, hein, ou s'ils l'ont pris pour un fou, mais en tout cas, il a prêché ça dans sa mosquée, que voilà, et il a expliqué que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, que c'est héliocentré, que c'est géocentré. Bref, Luther n'était pas parfait, Calvin n'était pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, nous avons simplement plus de connaissances aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que nous avons plus de connaissances que nous devons nous gonfler de notre connaissance, parce que tout ce que nous ne savons pas, et c'est énorme, vous voyez, aujourd'hui les physiciens ne savent toujours pas comment expliquer la lumière. Mais la Bible dit que Dieu est lumière, que Jésus est lumière. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune théorie qui explique la lumière. Aucune. Vous pouvez aller sur les sites chercher. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a Einstein qui a mis au point la théorie de la relativité restreinte, la relativité générale. Il y a Niels Bohr qui a mis au point la théorie des atomes. Mais la lumière, c'est les deux. Et personne n'a trouvé aujourd'hui une théorie, et ils continuent à chercher, ils mettent des millions et des millions dans la recherche pour trouver une théorie. Je ne sais pas s'ils vont la trouver, parce qu'ils vont trouver Christ. Voilà. Christ, c'est les deux. Il est lumière éternelle. Amen. Voilà. Donc restons modestes. Restons à notre place. Pas parce que nous sommes au 21e siècle, nous savons tout et que Luther ne savait rien. Non. Mais nous devons vivre notre foi dans l'espérance des choses à venir. Nous devons vivre dans cette perspective que nous n'avons pas de cité permanente ici. Que nous devons être des ambassadeurs. Ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se retire quand on lui interdit l'ambassade. Et en Corée du Nord, ce que je sache, il n'y a pas beaucoup d'ambassades. Hein. Il y a l'ambassade de France en Corée du Nord? Je ne crois pas. Hein. Enfin, non, confirmation, non. Voilà. Donc, vous voyez, l'ambassade, c'est une autorisation d'un pays qui permet à un autre pays d'être chez vous. Voilà. Les chrétiens en Corée du Nord aussi n'ont pas d'ambassade, puisqu'on les persécute. Vous voyez. Mais ils n'ont pas d'ambassade physique des nations, ils n'ont pas d'ambassade spirituelle. C'est là qu'on voit la résistance, hein, la résistance de la Corée du Nord, ce qui est spirituel et à ce qui est matériel. Donc ils sont vraiment dans une très grande rébellion pour en arriver là. Toujours chapitre 13, versets 8 et 9 d'Hébreux. 8 et 9, c'est le verset suivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Vous voyez, la grâce est là. C'est dans la nouvelle alliance, le Seigneur inscrit sa parole dans nos cœurs par la grâce. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une grâce de Dieu. Si aujourd'hui, vous avez pu vivre dans votre vie la nouvelle naissance, je l'espère pour tous, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est dommage parce qu'ils sont dans une religion. La religion, c'est basé sur la confession de foi, mais pas sur la foi. La foi, c'est quelque chose de vivant. C'est à chaque instant, vous êtes en communion avec le Seigneur. Et la nouvelle naissance est une grâce pure. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient en vous habiter pour vous faire comprendre sa parole. Si vous n'avez pas cette grâce, vous ne pouvez pas comprendre la parole. Vous pouvez la comprendre avec votre intelligence, mais pas avec votre cœur. Et donc, on a besoin de la grâce de Dieu qui nous sauve. Et c'est pour ça qu'il faut chercher cette grâce en permanence, parce que ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Ne soyez pas séduits par ces doctrines étrangères. Il y a toutes sortes de doctrines, plus qu'à toute autre époque. À l'époque des premiers chrétiens, vous avez tous les épîtres, en dehors des Hébreux, de Jean, de Pierre, de Paul et tout ça, où il y a des passages difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils révoquent les fausses doctrines, qu'on appelait les gnostiques. La gnose, c'est la connaissance. Vous voyez, la connaissance est toujours à la base de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il s'en est fallu de peu. Si la grâce de Dieu n'était pas intervenue, qu'aujourd'hui le christianisme n'existe pas sous la forme qu'on connaît. L'arianisme, tous les gnoses, étaient sur le point de faire basculer. Et s'il n'y avait pas des gens comme Martin de Tours, vous connaissez Saint-Martin ? Martin de Tours. Je crois savoir, parce que moi je vis dans la ville qui s'appelle Saint-Martin-la-Garenne, qui est un club qui s'est constitué des Saint-Martinois, des communes qui s'appellent Saint-Martin, et c'est les plus nombreux en France. Je ne sais plus combien de milliers il y a de Saint-Martin. Parce que Saint-Martin, c'était un apôtre, un homme, c'était un soldat, hein, soldat, je ne sais plus si c'est les Hongrois ou Hongrois, je crois. Un soldat hongrois, enfin dans l'armée romaine, qui s'est converti, qui a rencontré le Christ. Et quand il est venu en Europe, à l'époque c'était la Gaule, il était touché en tant que chrétien par un mendiant qui était en train de mourir. Il y avait un froid en hiver glacial, hein, et il est en train de mourir. Et donc la légende raconte qu'il a pris son manteau, ouais, c'était des manteaux épais hein, en hiver, il a coupé en deux avec son épée, il a donné la moitié du manteau pour le sauver. Et ça c'est Saint-Martin qui était à Tours, qui était un homme qui avait une grande autorité. Mais il ne se laissait pas corrompre par les grands de ce monde. À l'époque, il était convoqué, c'est juste une anecdote, hein, ça je l'ai lu par un livre, Saint-Martin de Tours, par un inconverti hein, qui écrit. Donc c'est pas un chrétien, un inconverti qui raconte ça. Et il a fait les mémoires de Saint-Martin. Et il a dit qu'un jour, il était convoqué par l'empereur à Mayence, en Allemagne à l'époque, hein, c'était l'Europe de l'époque, était convoqué à la cour et l'empereur voulait le tester. Savoir, voilà, parce qu'en général, à l'époque, vous collaboriez avec les grands pour toutes sortes de raisons. Et donc, il a assis à sa droite, et avec toute la cour qui était là. Et il y avait un code. Le code, c'est que quand il prenait la coupe remplie de vin, l'empereur le donnait à celui qui était à sa droite. Il a donné à celui qui était à sa droite, Saint-Martin. Il était supposé faire quelque chose, c'est de le donner au roi. C'était une preuve de soumission. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un scandale. Il a pris la coupe et il l'a donnée à sa droite. Et à sa droite, il y avait un de ses collègues, un prêtre, un ecclésiastique qui était là. Et il paraît qu'il y avait des mouches qui volaient parce qu'il savait que le roi pouvait lui trancher la gorge immédiatement. C'était un scandale qui était fait devant toute la cour. Et le roi, enfin l'empereur, l'a respecté. Il l'a respecté parce qu'il savait que c'était un homme de Dieu. Saint-Martin, Martin de Tours, quand il allait dans les villages de la Gaule, à l'époque, eh bien, il détruisait toutes les idoles. Et un jour, ils voulaient le tuer, et ils l'ont attaché à un chêne, vous savez, les grands chênes, voilà, immenses, hein, on ne pouvait pas mettre les mains autour. Et ils l'ont attaché et ils l'ont coupé le chêne pour le détruire. Ben, le chêne s'est arrêté là, il n'a pas détruit, il était sauvé. Il n'a vécu que des choses comme ça, parce que Dieu avait sa main sur lui. Et on savait que Martin avait une autorité qui venait de Dieu, et on le craignait. Et Martin de Tours a marqué la France, a marqué la Gaule. Ça, c'est nos anciens. Et c'est la foi de Martin qui a fait que les gens affluaient près de Tours. Hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, l'endroit où il était, un petit monastère qu'il a fait, les gens venaient pour rencontrer Dieu, pour lui demander conseil, parce qu'il n'avait pas de compromission avec les autorités civiles. Et les autorités civiles le respectaient. Il savait que c'était un homme de Dieu. Et on avait des hommes comme ça. Irénée de Lyon, Patrick, tous les gens de l'époque. Et ça, c'est notre histoire, et qui remonte au 5e siècle, pas au 18e siècle. Et donc nous avons une nuée de témoins, comme le dit l'apôtre dans chapitre 12. Nous aussi, puisque nous sommes environ d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous avons une épreuve. L'épreuve d'aujourd'hui est différente. Elle a été préparée depuis 100 ans, cette épreuve. Et si vous regardez l'histoire, vous la verrez. Satan a envoyé ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouvel Âge, il y a 100 ans, quelqu'un qui a rationalisé le bouddhisme. Ils étaient allés, Malcolm Olot et d'autres sont allés en Inde pour que le bouddhisme soit rationalisé, qu'il soit accepté par les Occidentaux. D'ailleurs, quand les bouddhistes ils viennent en France, ils disent c'est pas le bouddhisme. Mais c'est un bouddhisme qui attire, parce qu'il est rationalisé. Il est mis à la sauce occidentale. Hein. Du coup, on accepte le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est la grande sagesse. Ce est le Dalai Lama. Qu'est-ce que ça veut dire, le Dalai Lama? Traduction française. L'océan de sagesse. Oui, quand on salue le Dalai Lama, on salue l'océan de sagesse. Imaginez. Voilà. Donc, ce bouddhisme, aujourd'hui, bah, il fait école. On l'envoie même dans les grandes entreprises. On déduit du bouddhisme des choses. Votre potentiel. Vous allez, enfin, toutes les choses qui sont déduites parce que c'est rationalisé. Donc, on se méfie pas. Vous voyez. Mais derrière, il y a une sagesse diabolique qui veut détruire la foi chrétienne. Et ils y arrivent bien. Ils y arrivent bien. Si vous regardez le christianisme autour de vous, vous voyez qu'il est mélangé à cela. Au verset 10, nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. C'est quoi cet autel ? Nous avons un autel. Donc cette épître est écrite pour des Hébreux chrétiens. Donc c'est pour nous. Hein. Simplement, ça éclaire l'ancienne alliance dans le nouvel. Nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Le mot autel est employé dans plusieurs passages pour ce qui est offert sur l'autel. Hein. C'est l'autel en lui-même. C'est parce que sur l'autel, on fait des sacrifices. Ces Hébreux chrétiens n'étaient plus des Juifs possédant un culte auquel d'autres qu'eux ne pouvaient prendre part. Entre le judaïsme et le christianisme, les rôles étaient renversés. L'autel de Dieu, l'agneau de Dieu, appartenait aux chrétiens. Pourquoi ? Parce que l'autel du judaïsme était renversé. En 70, Dieu a permis, puisque toute l'histoire est entre les mains de Dieu, Dieu a permis que les Romains, à l'époque, qui étaient l'empire de ce moment-là, hein, tous les empires, voilà, ils imposent leur marque, et les Romains sont venus, et ils ont rasé la ville de Jérusalem. Ils ont rasé le temple, ils ont rasé l'autel, ils ont rasé le tabernacle, ils ont tout rasé. Et pour être sûr que ça ne recommence pas à pousser, ils ont mis du sel. Quand on met du sel, ils l'ont fait à Carthage, quand on met du sel, ça veut dire que c'est aussi le glyphosate aujourd'hui, hein, on l'interdit parce que voilà, ça détruit le sol, mais ça empêche toute végétation de revenir, toute vie de revenir. Ça, c'était un principe de base des Romains quand ils voulaient vraiment que... Parce qu'ils en avaient marre de ceux qui leur résistent, hein, comme Carthage, ils mettaient du sel partout, et là, vous êtes sûr. Donc c'est une malédiction qui était placée, et Jésus l'avait prévenu. Il dit « Jérusalem, Jérusalem, si seulement tu pouvais... ouvrir tes bras pour recevoir ton sauveur, mais tu seras détruite. » Et Jésus a dit à ses apôtres, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera rasée. Pourquoi ? Parce que Dieu avait un plan. Mais en 1948, Dieu a rétabli le peuple d'Israël. Et ça encore, c'est un paradoxe que personne ne comprend. Parce que Dieu, dans les derniers temps, va utiliser le peuple d'Israël, malgré lui, par grâce. Hello ? Mais à ce moment-là, les chrétiens juifs, eh bien, ils n'avaient plus d'autel. Donc il n'y avait plus qu'un seul autel. C'est l'autel des chrétiens. C'est l'autel sur lequel est célébré le sacrifice de Jésus. J'ai demandé à Marie-France si elle trouve quelque chose d'un peu plus joli qu'on mettra là. Hein, peut-être pour vous aider à voir que c'est un autel, hein, qui rappelle le sacrifice de Jésus. C'est un mémorial. Un mémorial qui rappelle une réalité, comme les Juifs qui faisaient le mémorial de la Pâque, de leur passage de la mer Rouge. Eux, ils ont été délivrés du péché de l'esclavage de l'Égypte. Nous sommes délivrés de l'esclavage du péché. Et donc cet autel doit vraiment nous faire rappeler eh bien, le sacrifice de Jésus. Christ est à la fois l'Holocauste, à la fois le sacrifice pour le péché de toute l'humanité. Et bien plus, le Juif qui servait le tabernacle terrestre, hein, dans le lieu très saint, n'avait pas le droit de manger de cet autel, car la loi l'interdisait. La loi disait, car les corps des animaux, dont le sang est porté pour le péché dans les lieux saints, par le souverain sacrificateur, sont brûlés hors du camp. Alors c'est dommage, je n'ai pas pensé à demander à Charles de m'amener le paperboard, mais je vous aurais dessiné, vous pouvez l'imaginer, le tabernacle de l'Ancien Testament. Il y avait le parvis, hein, il y avait une enceinte, hein, dans l'enceinte il y avait le parvis. Ensuite après il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Okay. Les gens, comme ce matin, j'ai charrié un peu Jean-Samuel sur le sacrifice, enfin l'animal qu'il avait amené pour son péché. Si c'était des péchés ordinaires, de la vie courante, etc., ils amenaient le sacrifice. Et ce sacrifice était, il y avait tout plein de sacrificateurs qui se relayaient, puisque c'était toute la tribu de Lévi qui était au service du tabernacle. Et donc, ils faisaient le sacrifice sur le parvis. Il y avait un grand endroit où ils faisaient le sacrifice et la graisse était brûlée. Et les gens pouvaient manger après. C'était la communion fraternelle. C'est pour ça, dans le culte, à la fin, nous avons une communion fraternelle, qu'on peut améliorer d'ailleurs, mais qui existe. Et qu'ils mangeaient les viandes de ces sacrifices-là, sacrifices ordinaires. Il y avait d'autres sacrifices qui était plus élevé, une hiérarchie, c'est pour ça que le catholicisme a tout copié, c'est une hiérarchie des péchés, hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, le sacrificateur rentrait dans le lieu saint, et dans le lieu saint, il offrait le sang des animaux. Et là, je ne sais pas, la codification est très complexe, dans certains cas, il pouvait manger, etc. Mais dans le lieu très saint, ce que je sais, c'est l'objet de cet épître, c'était une fois par an, au Yom Kippour, qu'il y avait un sacrifice qui était fait avec deux animaux, d'ailleurs, un animal qui était sacrifié, l'autre, le bouc, qui était envoyé dans le désert. Ce sacrifice-là, c'est uniquement le souverain sacrificateur qui prenait le sang, et avec le sang, il rentrait dans le lieu très saint, au-delà du voile. Et dans le lieu très saint, il demandait le pardon pour tout le peuple, et qui couvrait tous les péchés, les petits, les grands, les moyens, les huge, peu importe. Voilà. C'était l'ombre de ce qu'allait venir en Jésus. Voyez, où Jésus est en même temps le souverain sacrificateur, en même temps le sacrifice, en même temps l'Holocauste, il est tout en même temps. Mais c'est simplement la réalité de l'ombre, où Dieu avait prévu ça pour le jour où Jésus allait venir, Emmanuel, Dieu avec nous. Et là, ce sacrifice-là, on ne pouvait pas manger. Il n'y avait pas de communion fraternelle autour de la viande. Il fallait que cette viande soit portée hors du camp et brûlée hors du camp à l'extérieur, et détruite hors du camp. Oui. Voilà, donc la sagesse de Dieu, c'était pour que cette ombre des choses puisse prendre réalité, puisse prendre vie. Tout le christianisme est la réalité. Je vois déjà quelle heure, il faut que j'arrête. Désolé. Désolé, je pensais finir. Ce que je vais dire, c'est extrêmement important, de manière pratique. Mais je le prendrai la prochaine fois. Et je ferai plus d'introduction, j'irai tout de suite au verset 10-12 jusqu'à la fin. Dans cette réalité de brûler hors du camp, ça nous montre qu'est-ce que doit être le christianisme aujourd'hui. Et ce que les juifs qui veulent revenir au passé, revenir à la loi, au sens, non pas des commandements, mais dans la loi au niveau de la liturgie, c'est-à-dire la manière dont est faite leur liturgie, qui n'est pas une relation avec Dieu, qui est simplement de faire des choses avec un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est le souverain sacrificateur. C'est le sacrificateur et les souverains sacrificateurs, parce que les sacrificateurs, c'était eux seuls qui pouvaient faire les sacrifices. Et le souverain sacrificateur, le grand sacrifice du Yom Kippour. Or, la religion, il y a une différence entre la relation avec Dieu, ce que nous voulons être dans l'Église évangélique, et la religion évangélique. C'est quoi la différence? Entre autres, il y a beaucoup de différences. C'est simplement dans la religion évangélique, on cherche des rites. On cherche à faire des choses pour obtenir la faveur de Dieu. Dans la relation évangélique, on cherche simplement à plaire au Seigneur. Allô ? Avoir une communion avec lui. Et c'est là toute la différence. Mais l'homme naturel aime la religion. Il aime la religion parce que c'est plus facile. Voyez, c'est plus facile, la religion, de venir ici au culte, d'avoir des moments extraordinaires, d'avoir des gens qui préparent la louange, qui nous fait monter au ciel, c'est super. Et le lundi matin, bah, je fais comme si de rien n'était. Ça, c'est la religion. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a des prêtres, il y a un pasteur, là, à l'église, qui va prier pour moi. Il y a un tel qui va prier pour moi. Et c'est les intermédiaires. Et l'église catholique a reproduit ça. Parce que les aristocrates, les gens qui avaient tout plein de choses à gérer, ils ont dit, on n'a pas le temps, nous. On n'a pas le temps. On ne peut pas passer du temps. Donc, ils ont sous-traité la pastille sacerdotale à des prêtres. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est dans la sous-traitance. Voilà, pourquoi pas, le pasteur, on sous-traite le fait qu'il va prier pour moi. Voilà. Non. Pierre, il dit, vous êtes un peuple sacerdotal, un peuple de sacrificateurs. Et ça, c'est la réforme protestante qui l'a remis en vigueur. Nous sommes tous des prêtres. Amen. Dis à ton voisin, tu es prêtre. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es prêtre. Tu es prêtre. Ne cherchez pas d'autres prêtres. Tu es prêtre. C'est-à-dire, la grâce de Dieu fait que tu peux aller directement dans le lieu très saint. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Et Jésus, qui est dans le ciel, eh bien, il intercède pour toi et il te permet d'être dans la présence de Dieu. Hello ? C'est pas extraordinaire, ça ? On est émerveillé de la grâce que nous avons, alors que la religion, ce que je vous le dis, je connais beaucoup de catholiques qui souffrent de ça. Vatican II leur a ouvert la porte et là, les nouveaux papes leur ont fermé la porte. Parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait des prêtres. Il n'y a que le prêtre qui peut consacrer l'hostie. Il n'y a que le prêtre avec ses doigts qui peut être l'intermédiaire. C'est triste. C'est triste. Mais nous, est-ce que nous ne faisons pas pareil ? Je vous invite à venir à la formation, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas besoin. Mais je parie ma tête que si je pose la question à ceux qui sont membres, ils ne savent pas ce que j'enseigne. Parce que ce que j'enseigne, c'est justement montrer que nous sommes tous des sacrificateurs et que l'Église n'est pas ce qu'on pense. Pourquoi ? Parce que on prend des choses qu'on connaît. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de choses du catholicisme qui sont chez les évangéliques. Et en particulier dans les assemblées de Dieu, que je ne critique pas particulièrement. Mais on voit que le modèle, c'est le modèle catholique, de la pyramide du pasteur. Ah, le pasteur, c'est un pasteur, Non. Ici, on travaille en équipe. On a des charges différentes. Il faut connaître ces charges. Pour que vous puissiez aller voir les personnes qui sont en charge, qui sont dans des offices, des officines. Alors ? Et les choses vont changer. Parce que ce n'est pas le pasteur qui va tout régler. Moi, je ne suis pas un surhomme. Je ne suis pas Superman. Je ne suis pas le magicien d'Oz qui va avec la baguette tout faire. Okay ? Mais ça, c'est la religion. Et nous sommes imprégnés de religion. Nous sommes tous imprégnés de religion. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et vous savez où il a dit ça ? Il a dit ça à, comment ça s'appelle ? Césarée de Philippe. Et Césarée de Philippe, c'était en dessous du mont Hermon. Le mont Hermon, c'est la montagne où il y a la neige en permanence, comme les Alpes, hein, comme le Mont Blanc, sauf qu'il est un peu moins haut, mais quand même. Et c'est la montagne où il y avait le plus de cultes idolâtres en Israël, qui étaient donnés aussi sur la Syrie, sur le Liban. Et à cet endroit-là, il y avait une source, c'est les sources de Jéricho, et il y avait une grotte. Et cette grotte, on l'appelait l'Hadès. C'est-à-dire, il y avait un puits où les démons sortaient. Et c'était la grotte de Pan. Pan, c'est le dieu qui est à moitié cornu, hein, qui a les pieds cornus, qui est velu et tout ça. C'est le diable en personne. Et la grotte de Pan, on adorait ça. Et Jésus s'est tenu devant cette grotte. Il a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ? Qui dis-tu que je suis ?» Et Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus a dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'Hadès qui sont là derrière moi ne peuvent pas prévaloir. Si nous sommes bâtis sur la parole de Dieu, sur la réalité, nous sommes gardés des attaques, même les plus puissantes qui puissent exister de Satan. Amen. À condition que nous soyons sur sa parole. Seigneur, nous te prions afin que cette parole que tu nous as laissée, qui est une parole de vie, Seigneur, qui est une parole de vérité, puisse continuer à agir dans nos cœurs et nous aider à être fondés, non pas sur une sagesse, non pas sur des rites, non pas sur des on-dit ou des yaka-faucons, mais, Seigneur, qu'on puisse être fondés sur ta parole. Nous fêtons le 500e anniversaire de la réforme qui a remis en évidence l'écriture seule, Seigneur, que nous puissions être gardés de chercher d'autres écrits, d'autres enseignements que ta parole, parce qu'alors nous serons vulnérables. Seigneur, nous voulons être solides dans la foi pour tenir contre les agressions de l'ennemi qui sont de plus en plus nombreuses et fortes. Mais Seigneur, si nous restons sur ta parole, tu as dit que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur ton Église. Seigneur, merci de nous garder, de garder ton Église en France, de la réveiller s'il le faut, et de nous amener le réveil que nous attendons, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.